France Musique.
Til l'espiègle ou la vraie liberté? Chevauchant fièrement, un miroir dans une main et une chouette dans l'autre, Til l'Espiègle raconte depuis le Moyen-Âge les malheurs du temps. Attesté en Basse-Saxe au XIVe siècle et mort de la peste à Maulne en 1530, les anecdotes que transmet la tradition orale au sujet de Til l'Espiègle sont recueillies un siècle après sa mort et constituent un premier ensemble de 46 histoires, rédigées en bas allemand et imprimées à Lübeck vers 1478. Ce saltimbanque, malicieux et farceur de la littérature populaire du nord de l'Allemagne, connaît sa première biographie écrite en 1519 par Thomas Mörner, un moine strasbourgeois qui donne suite à de nombreuses publications en Angleterre, en Bohême, au Danemark, en France, en Italie et en Pologne. Dans toute l'Europe de l'Est, des auteurs transposent la vie de Til en la conformant aux mœurs et à l'histoire locale. Quant au livre de l'écrivain belge Charles de Coster, rédigé en 1868, il découle d'une longue tradition littéraire dont le but est de divertir les lecteurs en une période troublée. Dans la légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ullungspiegel et de l'âme Godsack au pays des Flandres, rédigé en 1867, l'auteur relate la vie de Til l'Espiègle, de sa naissance à son enterrement. En 96 histoires facétieuses, pleines d'entrain, d'inventions bouffonnes, de plaisanteries ou d'obscénités, il fait de Til une figure héroïque de la résistance flamande face à l'occupation des Flandres par l'Espagne au XVIe siècle. Ce mauvais drôle, ce Schalk, exerce ses talents en mystifiant l'establishment, même modeste, de son époque. Bourgeois, médecin, artisan ou clerc, comme si le petit paysan originaire de Basse-Saxe prenait plaisir à se montrer plus malin qu'eux et à mettre l'autorité en défaut aussi souvent qu'il le peut. Au hasard des rencontres, il s'ingénue à berner ceux qui ont eu l'imprudence de lui faire confiance, avant de quitter la scène et d'abandonner ses victimes à leur colère, n'hésitant pas à signer son forfait. Ces farces, souvent traditionnelles, sont fondées sur la tromperie, le mensonge, la superstition ou le désir de vengeance. Quant à la trame de l'histoire, elle est simple et linéaire. L'ouvrage de De Coster est ancré dans les cultures allemandes, belges puis françaises, et demeure populaire car il touche à un symbole essentiel des Flandres, l'esprit même de la vraie liberté qui sait rire, résister courageusement à tout envahisseur, sacrifier ses amours et périr à la hache et noblement. Le personnage de Til l'Espiègle, dont les attributs sont la chouette, Ullen, pour la sagesse, et le miroir, Spiegel, pour la farce et le reflet de la société, est un héros facétieux, mais sympathique. Il est aussi un des archétypes de la figure humaine nommée par Jung « fripon divin ». Il symbolise ce que nous avons tous de critique et d'insolent au plus profond de notre personnalité. Perçu comme le premier frondeur venu du peuple qui s'attaque à l'hypocrisie des valeurs sociales telles que la propriété, la classe, l'avidité et la cupidité, il est un fanatique de la vérité. Til l'Espiègle ou le triomphe de l'esprit de liberté sur l'ordre établi, de l'individu marginal sur la société, de l'errant sur les sédentaires, de l'aventurier oisif sur le travailleur rivé à sa tâche. Le fripon est un picaro avant la lettre, un anticonformiste qui, pour rayer la folie des hommes, se cache sous le masque de la folie, se grise de mouvement, joue de sa mobilité, de son agilité et de sa verve pour ébranler les certitudes et les structures, sème le désordre, bouscule le langage. Il incarne la fantaisie et la vie dans un monde menacé par l'inertie et le rationalisme simpliste. la religion n'échappe pas à cette remise en question. Pourtant, ce qui pourrait être sacrilège reste parodie et jeu. Luther et ses disciples ont beau blâmer son immoralité, les catholiques la mettent à l'index, les éditions se multiplient à partir de 1532. Au XIXe siècle, Dietrich Grabe veut lui consacrer une comédie et Heine un roman satirique qu'il truffera de remarques sur Dieu et tout le monde. Le compositeur, Richard Strauss, quant à lui, choisit de présenter les facéties du jeune saltimbanque sous forme d'un poème symphonique qu'il compose en 1894. Les plaisantes facéties de Till l'espiègle. Il écrit lui-même sur la partition une série d'annotations pour décrire chaque motif. Il était une fois un jeune coquin nommé Till l'espiègle. C'était un malicieux lutin parti vers de nouvelles facéties. Attendez un peu, peureux, hop, à cheval à travers l'étalage des marchandes de poissons. Il court avec des bottes de 7 lieues, caché dans un trou de souris, déguisé en pasteur. Il sent l'onction et la morale. Toutefois, le vaurien se révèle par son gros orteil. Mais comme il se rit de la religion, il ressent soudain une peur panique de la mort. Till, chevaleresque et échangeant des grâces avec de charmantes jeunes filles, il leur fait la cour. Un refus élégant est aussi un refus. Jure vengeance contre la race humaine. Thème des Philistins. Après avoir démontré aux Philistins quelques thèses plutôt monstrueuses, il les abandonne, ébahi à leur sort. Grimace lointaine. Chanson de Till, le tribunal. Il s'y flotte nonchalamment. Sur l'échafaud, il pend. L'air lui manque. Un dernier spasme. Till a vécu. Le 7 novembre 1956 sort à Paris le film « Des aventures de Till l'espiègle », première et unique réalisation de l'acteur vedette Gérard Philippe. À la lecture du livre, Gérard Philippe se prend d'affection pour le personnage, ce petit flamand que l'on voit naître et qui ne pense qu'à rire en parcourant le monde et son pays. Tout en comprenant que son père a été brûlé injustement, Till sert la cause de Gueux. Il combat la bêtise, la violence, la malhonnêteté, la lâcheté en employant l'arme à feu ou le rire. Gérard Philippe, devant un tel roman, déclare qu'il souhaite devenir l'interprète de Till et en réaliser le film. C'est malheureusement sans compter sur le contexte international. Nous sommes en pleine guerre froide. Si la France intervient en Égypte aux côtés d'Israël et de la Grande-Bretagne pour s'opposer à la nationalisation du canal de Suez par Nasser en octobre 1956, c'est plus particulièrement l'insurrection de Budapest qui débute le 23 octobre qui joue un rôle majeur dans cet échec. Le film, créé par des hommes engagés politiquement et véhiculant des idées progressistes, n'obtient qu'un silence historique. Pourtant, un film sur les aventures de Till l'espiègle est idéologiquement envisageable. Tout d'abord, c'est un film à la fois historique et engagé. Son sujet porte sur la résistance d'un peuple à l'oppresseur et la défense de la liberté touche à un thème universel. Malgré l'accueil frileux au regard des événements internationaux, le film est la voix de la liberté, écrit Romain Rolland. Il est la passion suprême, il est par-delà le mal. Ainsi, pour le plaisir des petits et des grands, traduction et adaptation se poursuivent jusqu'à nos jours. Car de cette littérature populaire allemande, dont chacun traduit sa propre version, naît une prise de conscience chez les enfants de ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Ou aussi de dénoncer les méthodes éducatives de leurs parents. Se servir des bêtises, en somme, pour faire prendre conscience de la bêtise. Les bêtises des enfants mettant en évidence sans doute la véritable bêtise, celle des adultes.
À réécouter sur francemusique.fr.